Alexandre Dumas, le prince des voleurs. Chapitre 1. C'était sous le règne de Henri II et en l'an de grâce 1162. Deux voyageurs, aux vêtements souillés par une longue route et aux traits exténués par une longue fatigue, traversaient un soir les sentiers étroits de la forêt de Sherwood dans le comté de Nottingham. L'air était froid. Les arbres, sur lesquels commençait à poindre la faible verdure de mars, frissonnaient au souffle des dernières bises de l'hiver, et un sombre brouillard s'épanchait sur la contrée à mesure que les rayonnements du soleil couchant s'éteignaient dans les nuages empourprés de l'horizon. Bientôt, le ciel devint obscur, et des rafales passant sur la forêt présagèrent une nuit orageuse. Ritson, dit le plus âgé des voyageurs en s'enveloppant dans son manteau. « Ne craignez-vous pas que l'orage nous surprenne avant notre arrivée, et sommes-nous bien sur la bonne route ?»«
Nous allons droit au but, milord, » répondit Ritson, « et si ma mémoire n'est pas en défaut, nous frapperons avant une heure à la porte du garde forestier. » Les deux inconnus marchèrent en silence pendant trois quarts d'heure, et le voyageur que son compagnon gratifiait de milord s'écria impatienté « Arriverons-nous bientôt ?»
« Dans 10 minutes, milord. »«
Bien, mais ce garde forestier, cet homme que tu appelles Head, est-il digne de ma confiance ?»«
Parfaitement digne, milord. Head, mon beau-frère, est un homme rude, franc et honnête. Il écoutera avec respect l'admirable histoire inventée par votre seigneurie et il y croira. Il ne sait pas ce que c'est que le mensonge, il ne connaît même pas la méfiance. »
« Tenez, milord !» s'écria joyeusement Ritson, interrompant l'éloge du garde. « Regardez là-bas cette lumière dont les reflets colorent les arbres. Eh bien, elle s'échappe de la maison de Gilbert Head. Que de fois dans ma jeunesse l'ai-je salué avec bonheur cette étoile du foyer, quand, le soir, nous revenions fatigués de la chasse. » Et Ritson demeura immobile, rêveur, et les yeux fixés avec attendrissement sur la lumière vacillante qui lui rappelait les souvenirs du passé.
« L'enfant dort-il ? » demanda le gentilhomme, fort peu touché de l'émotion de son serviteur.
« Oui, milord, » répondit Ritson, dont la figure reprit aussitôt une expression de complète indifférence. « Il dort profondément, et sur mon âme, je ne comprends pas que votre seigneurie se donne tant de peine pour conserver la vie d'un petit être si nuisible à vos intérêts. Pourquoi, si vous voulez vous débarrasser à jamais de cet enfant, ne pas lui enfoncer 2 pouces d'acier dans le cœur ? Je suis à vos ordres, parlez. Promettez-moi pour récompense d'écrire mon nom sur votre testament et notre jeune dormeur ne se réveillera plus. »
Tais-toi ! reprit brusquement le gentilhomme. « Je ne désire pas la mort de cette innocente créature. Je puis craindre d'être découvert dans l'avenir, mais je préfère les angoisses de la crainte au remords d'un crime. Du reste, j'ai lieu d'espérer, et même de croire, que le mystère qui enveloppe la naissance de cet enfant ne sera jamais dévoilé. Si le contraire arrivait, ce ne pourrait être que ton ouvrage, Ritson. » Et je te jure que tous les instants de ma vie seront employés à une rigoureuse surveillance de tes faits et gestes. Élevé comme un paysan, cet enfant ne souffrira pas de la médiocrité de sa condition. Il s'y créera un bonheur en rapport avec ses goûts et ses habitudes et ne regrettera jamais le nom et la fortune qu'il perd aujourd'hui sans les connaître.
« Que votre volonté soit faite, milord, » répliqua froidement Ritson. « Mais en vérité, la vie d'un si petit enfant ne vaut pas les fatigues d'un voyage de Huntingdonshire à Nottinghamshire. » Enfin, les voyageurs mirent pied à terre devant une jolie maisonnette cachée comme un nid d'oiseau dans un massif de la forêt.
« Hola, voisin Head !» cria Ritson d'une voix joyeuse et retentissante. « Hola, ouvrez vite, la pluie tombe drue et d'ici je vois flamboyer votre âtre. »
« Ouvrez, bonhomme, c'est un parent qui vous demande l'hospitalité. »
Les chiens grondèrent dans l'intérieur du logis et le prudent garde répondit d'abord
« Qui frappe ?»«
Un ami. »«
Quel ami ?»«
Roland Ritson, ton frère. Ouvre donc, bon Gilbert. »«
Toi, Roland Ritson, de Mansfeld ?»«
Oui, oui, moi-même, le frère de Marguerite. » Allons, ouvriras-tu ? Ajouta Ritson impatienté. Nous causerons à table.
La porte s'ouvrit enfin et les voyageurs entrèrent.
Gilbert Head serra cordialement la main de son beau-frère et dit au gentilhomme, en le saluant avec politesse,
« Soyez le bienvenu, messire chevalier, et ne m'accusez pas d'avoir enfreint les lois de l'hospitalité si, pendant quelques instants, j'ai tenu ma porte fermée entre vous et mon foyer. L'isolement de cette demeure et le vagabondage des outlaws dans la forêt me commandent la prudence, car il ne suffit pas d'être vaillant et fort pour échapper au danger. Agréez donc mes excuses, noble étranger, et regardez ma maison comme la vôtre. Asseyez-vous au feu et séchez vos vêtements, on va s'occuper de vos montures. »
« Hola, Lincoln ! » s'écria Gilbert en trouvant la porte d'une chambre voisine.
« Conduis les chevaux de ces voyageurs sous le hangar, puisque notre écurie est trop petite pour les recevoir et qu'il ne leur manque rien, du foin plein le râtelier et de la paille jusqu'au ventre. »
Un robuste paysan vêtu en forestier parut aussitôt, traversa la salle et sortit sans même jeter un curieux regard sur les nouveaux venus. Puis une jolie femme, de 30 ans à peine, vint offrir ses deux mains et son front au baiser de Ritson.
« Chère Marguerite, chère sœur !» s'écriait celui-ci, redoublant ses caresses et la contemplant avec une naïve admiration mêlée de surprise. « Mais tu n'es pas changée, mais ton front est aussi pur, tes yeux aussi brillants, tes lèvres et tes joues aussi roses et aussi fraîches que lorsque notre bon Gilbert faisait la cour.
« C'est que je suis heureuse !» répondit Marguerite, lançant à son mari un tendre regard.
« Vous pouvez dire, nous sommes heureux, Maggie, » ajouta l'honnête forestier. « Grâce à votre heureux caractère, il n'y a encore eu ni bouderie ni querelle dans notre ménage. Mais assez causé sur ce chapitre et pensons à nos hôtes. Ça, l'ami beau-frère, ôtez votre manteau et vous, messire chevalier, débarrassez-vous de cette pluie qui ruisselle sur vos habits comme une rosée du matin sur les feuilles. Nous souperons ensuite. » « Vite, Maggie, un fagot, deux fagots dans l'âtre, sur la table les meilleurs plats et dans les lits les draps les plus blancs. Vite !»
Tandis que l'alerte jeune femme obéissait à son mari, Ritson rejetait son manteau en arrière et découvrait un bel enfant enveloppé dans une mante de cachemire bleue. Ronde, fraîche et vermeille, la figure de cet enfant, âgé de 15 mois à peine, annonçait une santé parfaite et une robuste constitution. Quand Ritson eut arrangé soigneusement les plis froissés du bonnet de ce baby, il plaça sa jolie petite tête sous un rayon de lumière qui en faisait ressortir toute la beauté et appela doucement sa sœur. Marguerite accourut.
« Maggie, lui dit-il, j'ai un cadeau à te faire et tu ne m'accuseras pas de revenir vers toi les mains vides après 8 ans d'absence. Tiens, regarde ce que je t'apporte. »
« Sainte Marie !» s'écria la jeune femme les mains jointes.
« Sainte Marie, un enfant ! Mais Roland, est-il à toi ce beau petit ange ? Gilbert, Gilbert, viens donc voir un amour d'enfant !»«
Un enfant ? Un enfant entre les mains de Ritson ?» Et loin de s'enthousiasmer comme sa femme, Gilbert lança un coup d'œil sévère sur son parent.
« Frère, dit le garde forestier d'un ton grave, « êtes-vous donc devenu nourrisseur de marmots depuis qu'on vous a réformé comme soldat ?»«
Elle est assez bizarre, mon garçon, la fantaisie qui vous prend de courir la campagne avec un enfant sous votre manteau. »«
Que signifie tout cela? Pourquoi venez-vous ici? Quelle est l'histoire de ce poupon? Voyons, parlez, soyez francs, je veux tout savoir. »«
Cet enfant ne m'appartient pas, brave Gilbert. C'est un orphelin et le gentilhomme que voici est son protecteur. » « Sa seigneurie connaît la famille de cet ange et vous dira pourquoi nous venons ici. En attendant, bonne Maggie, charge-toi de ce précieux fardeau qui pèse sur mon bras depuis 2 jours, c'est-à-dire 2 heures. Je suis déjà las de mon rôle de nourrice. »
Marguerite s'empara vivement du petit dormeur, le transporta dans sa chambre, le déposa sur son lit, lui couvrit les mains et le cou de baisers, l'enveloppa chaudement dans son beau mantelet de fête et rejoignit ses hôtes. Le souper se passa joyeusement et, à la fin du repas, le gentilhomme dit au garde, L'intérêt que votre charmante femme témoigne à cet enfant me décide à vous faire une proposition relative à son bien-être futur. Mais d'abord, permettez-moi de vous instruire de certaines particularités qui se rattachent à la famille, à la naissance et à la situation actuelle de ce pauvre orphelin dont je suis l'unique protecteur. Son père, ancien compagnon d'armes de ma jeunesse, passé au milieu des camps, fut mon meilleur et mon plus intime ami. Au commencement du règne de notre glorieux souverain Henri II, nous séjournâmes ensemble en France, tantôt en Normandie, tantôt en Aquitaine, tantôt en Poitou, et après une séparation de quelques années, nous nous retrouvâmes dans le pays de Galles. Mon ami, avant de quitter la France, était devenu éperdument amoureux d'une jeune fille, l'avait épousée et conduite en Angleterre auprès de sa famille à lui. Malheureusement, cette famille, fière et orgueilleuse branche d'une maison princière et imbue de sots préjugés, refusa d'admettre dans son sein la jeune femme, qui était pauvre et n'avait d'autre noblesse que celle des sentiments. Cette injure la frappa au cœur et elle mourut 8 jours après avoir mis au monde l'enfant que nous voulons confier à vos bons soins et qui n'a plus de père, car mon pauvre ami tombé, blessé à mort, dans un combat en Normandie, voilà bientôt 10 mois. Les dernières pensées de mon ami mourant furent pour son fils. Il me manda près de lui, me donna à la hâte le nom et l'adresse de la nourrice de l'enfant, et me fit jurer, au nom de notre vieille amitié, de devenir l'appui, le protecteur de cet orphelin. Je jurai et je tiendrai mon serment, mais la mission est bien difficile à remplir, maître Gilbert. Je suis encore soldat, je passe ma vie dans les garnisons ou sur les champs de bataille, et je ne puis veiller moi-même sur cette frêle créature. De notre côté, je n'ai ni parents ni amis aux mains desquels je puisse sans crainte remettre ce précieux dépôt. Je ne savais donc plus à quel saint me vouer quand l'idée me vint de consulter votre beau-frère, Roland Ritson. Il pensa de suite à vous. Il me dit que, marié depuis 8 ans à une adorable et vertueuse femme, vous n'aviez pas encore le bonheur d'être père et que, sans doute, il vous serait agréable, moyennant salaire, bien entendu, d'accueillir sous votre toit un pauvre orphelin, le fils d'un brave soldat. Si Dieu accorde vie et santé à cet enfant, il sera le compagnon de ma vieillesse. Je lui raconterai l'histoire triste et glorieuse de l'auteur de ses jours, et je lui enseignerai à marcher d'un pas ferme dans les mêmes sentiers où nous marchâmes son vaillant père et moi. En attendant, vous élèverez l'enfant comme s'il était le vôtre, et vous ne l'élèverez pas gratuitement, je vous le jure. Répondez, maître Gilbert, acceptez-vous ma proposition ? Le gentilhomme attendit avec anxiété la réponse du forestier, qui, avant de s'engager, interrogeait sa femme du regard. Mais la jolie Margaret détournait la tête, et le col penché vers la porte de la chambre voisine, elle essayait en souriant d'écouter l'imperceptible murmure de la respiration de l'enfant. Ritson, qui analysait furtivement du coin de l'œil l'expression de la physionomie des deux époux, comprit que sa sœur était disposée à garder l'enfant malgré les hésitations de Gilbert et dit de sa voix persuasive « Les rires de cet ange feront la joie de ton foyer, ma douce Maggie, et par Saint-Pierre, je te le jure, tu entendras un autre bruit non moins joyeux, le bruit des guinées que sa seigneurie versera chaque année dans ta main. Ah, je te vois déjà riche et toujours heureuse, conduisant par la main aux fêtes du pays le joli baby qui t'appellera maman. Il sera vêtu comme un prince, brillant comme le soleil, et toi, tu rayonneras de plaisir et d'orgueil. » Marguerite ne répondit rien, mais elle regarda en souriant Gilbert, Gilbert dont le silence fut mal interprété par le gentilhomme. « Vous hésitez, maître Gilbert, » dit ce dernier en fronçant les sourcils. « Est-ce que ma proposition vous déplaît ?»« Pardon, messire, votre proposition m'est fort agréable et nous garderons cet enfant si ma chère Maggie n'y voit pas d'obstacle. Allons, femme, dis ce que tu penses. Ta volonté sera la mienne. » « Ce brave soldat a raison, » répondit la jeune femme. « Il lui est impossible d'élever cet enfant. »« Eh bien ?»« Eh bien, je deviendrai sa mère. » Puis, s'adressant au gentilhomme, elle ajouta, « Et si un jour il vous plaisait de reprendre votre fils d'adoption, nous vous le rendrons le cœur serré, mais nous nous consolerons de sa perte en pensant qu'il sera désormais plus heureux près de vous que sous l'humble toit d'un pauvre garde forestier. »
Les paroles de ma femme sont un engagement, reprit Gilbert, et pour ma part, je jure de veiller sur cet enfant et de lui servir de père. Messire Chevalier, voici le gage de ma foi. En arrachant de sa ceinture un de ses gantelets, il le jeta sur la table.
Foi pour foi et gantelet pour gantelet, répliqua le gentilhomme, jetant aussi un gantelet sur la table.
Il s'agit maintenant de s'entendre sur le prix de la pension du baby.
Tenez, brave homme, prenez cela. Chaque année, vous en recevrez autant.
Et tirant de dessous son pourpoint un petit sac de cuir rempli de pièces d'or, il essaya de le placer entre les mains du forestier. Mais celui-ci refusa.
Gardez votre or, messire, les caresses et le pain de marguerite ne se vendent pas.
Longtemps, le petit sac de cuir fut renvoyé des mains de Gilbert dans celles du gentilhomme. On transigea enfin et on convint, d'après la proposition de Marguerite, que l'argent reçu chaque année en paiement de la pension de l'enfant serait placé en lieu sûr pour être remis à l'orphelin à l'époque de sa majorité. Cette affaire réglée à la satisfaction de tous, on se sépara pour dormir. Le lendemain, Gilbert était sur pied au point du jour et regardait d'un œil d'envie les chevaux de ses hôtes. Lincoln s'occupait déjà de leur pansage.
« Quelle magnifique bête !» disait-il à son domestique. « On ne croirait pas qu'elle vienne de trotter pendant 2 jours, tant elle montre de vigueur. Par la sainte messe, il n'y a que les princes qui puissent monter de pareils coursiers et ils doivent valoir de l'argent gros comme mes bidets. Mais je les oubliais, ces pauvres compagnons. Leur atelier doit être vide. »
Et Gilbert entra dans son écurie.
L'écurie était déserte.
« Tiens, ils ne sont plus là ?
Ohé, Lincoln, as-tu déjà conduit les bidets au pâturage ?»«
Non, maître. »«
Voilà qui est singulier, » murmura Gilbert. Et, saisi d'un secret pressentiment, il s'élança vers la chambre de Ritson. Ritson n'y était pas. « Mais peut-être a-t-il été réveillé le gentilhomme, » se dit Gilbert, en passant dans la chambre donnée au chevalier. Cette chambre était vide. Marguerite parut, tenant dans ses bras le petit orphelin.
« Femme !» s'écria Gilbert, « nos bêtes ont disparu. »«
Est-ce possible ?»«
Ils ont enfourché nos chevaux et nous ont laissé les leurs. »«
Mais pourquoi nous ont-ils quittés ainsi ?»«
Devine, Maggie, moi, je n'en sais rien. »«
Ils voulaient peut-être nous cacher la direction de leur route. »«
Ils auraient donc alors quelques mauvaises actions à se reprocher ?»
Ils n'ont pas voulu nous prévenir qu'ils remplaçaient leurs bêtes harassées de fatigue par les nôtres.
Ce n'est pas cela, car on dirait que leurs chevaux n'ont pas voyagé depuis 8 jours, tant ils montrent ce matin de vivacité et de vigueur.
Bah, n'y pensons plus. Tiens, regarde l'enfant comme il est beau, comme il sourit. Embrasse-le.
Peut-être bien que ce seigneur inconnu a voulu nous récompenser de notre obligeance en échangeant ses 2 chevaux de prix contre nos 2 roquentins.
Peut-être, et craignant notre refus, il sera parti pendant que nous dormions.
Eh bien, s'il en est ainsi, je le remercie de grand cœur. Mais je ne suis point content du beau-frère Ritson qui nous devait un bonjour.
Et ne sais-tu pas que depuis la mort de ta pauvre sœur Annette, sa fiancée, Ritson évite la contrée. L'aspect de notre bonheur en ménage aura réveillé ses chagrins.
Tu as raison, femme, répondit Gilbert en poussant un gros soupir. Pauvre Annette.
Le plus fâcheux de l'affaire, reprit Marguerite, c'est que nous n'avons ni le nom ni l'adresse du protecteur de cet enfant. Qui avertirons-nous s'il tombe malade ?
Lui-même, comment l'appellerons-nous ?
Choisis son nom, Marguerite.
Choisis-le toi-même, Gilbert. C'est un garçon et cela te regarde.
Eh bien, nous lui donnerons, si tu veux, le nom du frère que j'ai tant aimé. Je ne puis penser à Annette sans me souvenir de l'infortuné Robin.
Soit, il est baptisé et voilà notre gentil Robin, s'écria Marguerite en couvrant de baisers la figure de l'enfant qui lui souriait déjà comme si la douce Marguerite eût été sa mère.
L'orphelin fut donc nommé Robin Hood. Plus tard, et sans cause connue, le mot « est » se changea en « oud » et le petit étranger devint célèbre sous le nom de Robin. Et le petit étranger devint célèbre sous le nom de Robin Hood.